Chapitre 2 Versets 1 à 12 Le jugement de la chrétienté Versets 1 et 2 Citation de l'Écriture Or nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Fin de citation. Dans la deuxième division de l'épître, l'apôtre aborde le sujet spécial qui l'a amené à écrire de nouveau aux croyants de Thessalonique. L'ennemi, saisissant l'occasion de leurs épreuves et de leurs persécutions, les avait trompés en leur faisant penser que le jour du Seigneur était arrivé et que, par conséquent, les croyants, avant d'atteindre leur bénédiction finale, devrait passer par la grande tribulation que le jour du Seigneur fera venir sur le monde entier. Cette erreur leur était apparemment parvenue par de faux docteurs qui, non seulement avaient été trompés eux-mêmes, mais qui trompaient délibérément, car ils s'étaient même abaissés à forger une lettre, comme si elle provenait de l'apôtre, afin de donner à cette erreur l'apparence de l'autorité apostolique. L'apôtre appelle ses saints à ne pas se laisser bouleverser dans leurs pensées ni troubler, par de telles erreurs, soit qu'elles viennent d'un mauvais esprit, par de l'enseignement oral, soit qu'elles émanent d'une fausse lettre prétendant provenir de lui-même. Et l'apôtre fonde son appel sur le grand fait déjà placé devant ses croyants dans la première épître, celui de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ce grand événement précédera le jour du Seigneur. Versets 3 et 4 Citation de l'Écriture. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Fin de citation. Il est de toute importance de voir que l'Écriture distingue clairement la descente du Seigneur en l'air pour ses saints et son apparition ultérieure avec ses saints. Ce chapitre parle de l'intervalle entre ces deux grands événements, duquel la prophétie s'occupe tellement, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans les propres paroles prophétiques du Seigneur ou dans d'autres prophéties du Nouveau Testament. Cette période est appelée par le Seigneur la consommation du siècle. Matthieu 24, verset 3. Il faut se rappeler que la consommation du siècle n'est pas la fin de l'époque chrétienne qui se termine avec l'enlèvement. La consommation du siècle, dont parle le Seigneur, est la fin du siècle juif, l'ère juive, non pas la fin de la période chrétienne. Elle comprend la dernière semaine, encore non accomplie, des 70 semaines de Daniel. Elle est, comme quelqu'un l'a dit, la fin définitive de l'époque juive. C'est à cette époque-là que le jour du Seigneur appartient. On aurait évité beaucoup de confusion si le vrai sens de l'expression « la consommation » ou « l'achèvement » de l'époque avait été vu. La fausse interprétation selon laquelle elle fait référence à la fin de la période chrétienne en a amené beaucoup à faire la chasse aux dates et aux calculs de durée ce qui a tellement causé de déceptions pour des multitudes au cours des âges. Cette période, l'intervalle entre l'enlèvement et l'apparition, est d'une importance des plus solennelles dans l'histoire du monde. La grande et exceptionnelle particularité de cette période sera le développement de la méchanceté de l'homme sans que la puissance de Dieu la freine. Pour cette raison, ce sera nécessairement une période courte, car une fois que Dieu aura enlevé tout frein, le mal de l'homme se développera à une vitesse effrayante. Cette accumulation d'iniquités préparera la voie à l'apparition du Seigneur en jugement. Elle rendra manifeste le besoin de jugement ainsi que la justice du Seigneur quand il interviendra en jugement. L'apôtre, dans ce passage, jette une grande lumière sur cette période solennelle. Tout d'abord, il montre que cette période ne peut pas commencer avant la venue du Seigneur Jésus pour les croyants, ni avant notre rassemblement auprès de lui. Ces deux événements sont suffisants pour régler et éliminer l'erreur qui avait troublé ses saints. Mais il y a d'autres événements qui doivent avoir lieu avant le jour du Seigneur. Ainsi, l'apôtre poursuit en disant « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. » Il y a donc ici deux événements supplémentaires qui précèdent le jour du Seigneur. Le rassemblement des saints auprès de Christ dans le ciel est suivi par, premièrement, l'apostasie de la chrétienté sur la terre, et l'apostasie prépare la voie à, deuxièmement, la manifestation de l'homme de péché. En ce qui concerne l'apostasie, nous sommes avertis dans d'autres passages de l'Écriture qu'à mesure que nous approchons de ce terrible jour, des signes de l'apostasie prochaine se manifesteront. Nous lisons « Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. » 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Si des personnes individuelles peuvent déjà apostasier, l'apostasie, dans un sens absolu, attend que les vrais chrétiens soient partis. Cet événement sera suivi par l'apostasie de toute la chrétienté professante corrompue. Ainsi, le rassemblement des saints auprès de Christ dans le ciel est suivi par l'apostasie de la chrétienté professante sur la terre. Hélas, il n'est que trop évident que la chrétienté court à grande vitesse vers l'apostasie. Le modernisme, avec son rationalisme, la science, faussement ainsi nommée, avec ses spéculations impies et prétentieuses, la superstition, avec son ritualisme enfantin, tout prépare les hommes à se débarrasser de la profession extérieure de ce dont ils n'ont jamais connu la réalité vitale. L'apostasie préparera la voie à l'apparition de l'homme de péché. La comparaison de ce passage avec d'autres conduit à la conclusion que la personne dont parle ce passage, l'homme de péché, est l'Antichrist, au sujet duquel l'apôtre Jean a écrit, et qui est décrit sous la figure de la seconde bête en Apocalypse 13, versets 11 à 18. C'est seulement dans l'épître de Jean que ce méchant est appelé l'Antichrist. De même que l'apôtre Paul nous avertit qu'il y aura des individus apostats avant la grande apostasie, l'apôtre Jean nous avertit qu'il y aura des docteurs antichrétiens avant la manifestation de l'Antichrist. 1 Jean 2, verset 18. Il ne faut pas confondre l'Antichrist avec le chef ou tête blasphémateur de l'Empire romain ressuscité, décrit sous la figure de la première bête en Apocalypse 13, versets 1 à 10. L'Antichrist sera le vase de l'énergie religieuse et de l'opposition contre Christ. La tête ressuscitée de l'Empire romain sera le chef d'un gouvernement mauvais public. L'une exercera le pouvoir religieux en mal, l'autre le pouvoir civil en mal. Les deux puissances auront une énergie animée par Satan et les deux arriveront à la même fin terrible. Apocalypse 13, verset 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 9, Apocalypse 19, verset 20. L'apôtre Jean montre que l'opposition religieuse de l'Antichrist aura à la fois un caractère juif et un caractère chrétien. Il niera la révélation chrétienne du Père et du Fils et niera que Jésus est le Messie promis aux Juifs. L'apôtre Paul, dans cette seconde épître aux Thessaloniciens, donne plus de détails sur le caractère et les actions de ce terrible personnage. Il est appelé ici « l'homme de péché ». Car on verra dans cet homme le résultat d'un homme laissé libre de faire sa propre volonté, sans frein, ni de la part de Dieu, ni de l'homme. Comme Judas, il est appelé le fils de perdition, car de même que Judas était un traître au milieu du groupe favorisé des disciples qui accompagnaient le Seigneur, cet homme se lèvera d'entre ceux qui professent le christianisme. Les deux hommes sont condamnés à la perdition, à la destruction totale. Jean 17, verset 12. Quant aux activités de cet homme méchant, elles expriment toutes la méchanceté religieuse plutôt qu'un mauvais gouvernement civil, étant impie vis-à-vis de Dieu et séducteur vis-à-vis des hommes. Il s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération. Dans cet homme s'exprimera toute l'iniquité du cœur humain contre Dieu, ce qui est l'effet du péché. En outre, l'homme qui cherche à détrôner Dieu est occupé à s'exalter lui-même. Nous lisons donc au sujet de l'homme de péché que non seulement il s'oppose à Dieu, mais qu'il s'élève. L'orgueil de cet homme est tellement sans bornes qu'il cherchera à s'exalter au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération. Cet homme terrible défiera le Dieu d'Israël, car lui-même s'assiera au temple de Dieu et cherchera à éliminer toute foi dans le Dieu unique et invisible, car il se présentera lui-même comme étant Dieu. Quelqu'un a dit « Il y a dans cet homme de péché un concentré de toute la puissance du péché, de toute l'inimitié du cœur humain contre Dieu, de tout l'orgueil qui s'exalte soi-même, de tout le défi du cœur humain à l'encontre de toutes les révélations de Dieu, qu'elles soient dans la nature, dans le judaïsme ou dans le christianisme. Dans cette personne, Dieu est exclu de la terre et l'homme s'arroge la place et l'honneur qui n'appartient qu'à Dieu seul. » Versets 5 à 8. Citation de l'Écriture. « Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses ? Et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. » Fin de citation. Au cours de sa description de l'Antéchrist qui vient, l'apôtre s'arrête pour nous rappeler ce qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, alors que les vrais chrétiens sont encore sur la terre. Premièrement, il y a par la bonté de Dieu ce qui retient la révélation de ce terrible homme de péché. Verset 6. Deuxièmement, bien que la bonté de Dieu retienne la pleine manifestation de la méchanceté, néanmoins le mal qui conduit à l'apostasie et à la révélation de l'homme de péché est déjà à l'œuvre. Cette iniquité était, en effet, déjà à l'œuvre à l'époque de Paul, car il devait dire « Elle opère déjà ». Verset 7. Or, elle a continué à opérer tout au long de la période chrétienne, quoique d'une manière secrète, et c'est la raison pour laquelle elle est appelée « le mystère d'iniquité ». Il est parlé de la grande puissance qui retient comme d'une personne, verset 7, et une personne présente sur la terre, mais qui s'en ira bientôt, de sorte que nous lisons « Celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin ». Il n'y en a qu'un à qui cela peut se référer, le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement la présence de vrais chrétiens qui entrave le développement complet du mal, même si le Saint-Esprit peut beaucoup s'en servir comme frein, mais c'est plutôt la présence d'une personne divine qui retient la puissance de Satan. Ainsi, le mystère d'iniquité, quoiqu'il ne soit pas mis de côté, est actuellement retenu. Voilà une vérité qui donne beaucoup de consolation et de confiance aux chrétiens. Quand le Saint-Esprit sera parti, le frein sera débloqué et le mystère d'iniquité sera ouvertement révélé dans la personne de l'inique. Verset 8. La consommation du mal dans cet homme de péché suscitera le juste jugement de Dieu. Le Seigneur Jésus, celui contre qui l'Antéchrist mène une opposition mortelle, consumera cet homme méchant avec le souffle de sa bouche. C'est sûrement l'épée aiguë qui sort de sa bouche dont parle l'Apocalypse et qui symbolise sans doute la parole de Dieu appliquée en jugement. Cette épée de jugement sera maniée par le Seigneur Jésus à l'apparition de sa venue. Il est bon de noter la différence que l'Écriture fait entre la venue du Seigneur pour ses saints et sa venue en jugement. Quand l'apôtre parle du rassemblement des croyants auprès de lui, sa venue, ou sa présence, est nommée, mais il n'y a pas un mot sur son apparition. Verset 1. Lorsque l'inique sera l'objet du jugement, ce ne sera pas simplement lors de la venue du Seigneur, mais à son apparition. Il peut venir, et il viendra, pour ses saints sans apparaître au monde. Quand il viendra en jugement, il apparaît devant tout le monde. Comme quelqu'un l'a dit, la distinction donc entre les versets 1 et 8, la venue ou présence de Christ tout simplement, et l'apparition de sa venue, est précise, instructive et indéniable. L'une est le rassemblement des saints auprès de Christ en haut, l'autre est pour lui, et nous pouvons dire pour tous ses saints ainsi rassemblés pour apparaître avec lui, pour écraser ses ennemis. C'est alors que tout œil le verra, car cela concerne toute âme sur la terre. Verset 9. Citation de l'Écriture. Duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges. Fin de citation. Après nous avoir instruits sur la puissance qui retient le plein développement de ce mal effrayant, l'apôtre conclut sa description de cet inique en annonçant la puissance séductrice qu'il va exercer et ses terribles effets sur ceux qui auront rejeté la vérité. Ce déploiement effrayant d'énergie de séduction sera l'occasion de la pleine manifestation de la puissance de Satan. La venue de cet homme de péché sera, selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges. Cet homme impie agira en opposition mortelle à Christ, mais ses séductions seront vues en ce qu'il fera ces choses en imitant Christ. Nous lisons du Seigneur Jésus qu'il était approuvé de Dieu par des miracles et des signes et des prodiges. Acte 2, verset 22. Les mêmes mots qui sont utilisés pour présenter la puissance de Dieu agissant en grâce en Christ sont utilisés pour exposer la puissance de Satan agissant en méchanceté dans l'homme de péché. Ainsi, l'Antichrist, sous la puissance de Satan, cherchera à minimiser le témoignage rendu par Dieu à Christ par des miracles et des prodiges similaires à ceux accomplis par Christ. Ces miracles et ces signes ne seront pas la supercherie de quelques prêtres établis par l'homme, ni les simulacres humains de guérison. Ils seront terriblement réels, bien qu'appelés prodiges de mensonges, dans la mesure où ils tromperont les hommes. Ainsi, la venue de cet inique sera accompagnée de la puissance surnaturelle de Satan. Les hommes oublient qu'il y a des êtres spirituels, des anges puissants en force, psaume 103, verset 20, et que Satan, bien qu'il soit un ange déchu, a des pouvoirs immenses, dépassant de loin ceux de l'homme. Lorsque la puissance de Dieu qui retient sera ôtée, les pouvoirs surnaturels de Satan seront pleinement déployés. L'action de Satan sera accompagnée d'une manifestation de puissance bien supérieure à celle de l'homme, avec des signes véhiculant certains présages et des prodiges spectaculaires. Versets 10 à 12. Citation de l'Écriture. Et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Fin de citation. L'apôtre clôt cette partie solennelle de son épître en décrivant l'effet terrible de l'opération de la puissance de Satan par le moyen de l'inique. Toute cette iniquité séduira ceux qui périssent, ceux qui ont entendu la vérité et qui l'ont refusée. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ayant refusé la vérité, ils seront livrés à cette énergie d'erreur et croiront au mensonge. En outre, ils n'ont pas cru la vérité, car ils ont pris plaisir à l'injustice. Le passage décrit clairement l'ordre de ces événements solennels. Actuellement, le mal opère secrètement. Il est appelé ici le mystère d'iniquité. Lors de la venue de Christ pour ses saints, les vrais croyants seront enlevés, et celui qui retient s'en ira. Suite à l'enlèvement des saints auprès de Christ dans le ciel, l'apostasie de la profession chrétienne surviendra sur la terre. L'apostasie préparera la voie à la révélation de l'homme de péché. La révélation de l'homme de péché sera l'occasion d'un déploiement complet de la puissance de Satan. Le déploiement de la puissance de Satan, par l'homme de péché, conduira à l'énergie d'erreur chez ceux qui, ayant pris plaisir à l'injustice, auront rejeté la vérité. Le mal, à la fois en l'homme et en Satan, étant arrivé à son comble dans une révolte ouverte contre Dieu, sera réprimé en un jugement écrasant par le Seigneur à l'apparition de sa venue. À la lumière de ce passage, il est clair qu'on est bien loin de ce que la bénédiction millénaire soit répandue par la propagation du christianisme ou la prédication de l'Évangile. Au contraire, la chrétienté s'avance vers le jugement. Quelqu'un a dit « C'est une preuve remarquable de la puissance de Satan qu'en face de ces passages, de Thessaloniciens 2, versets 3 à 12, de Timothée 3, versets 1 à 5 et verset 13, de Timothée 4, verset 34, des hommes sages, à leurs propres yeux, veulent trouver des raisons pour prouver qu'ils doivent continuer à remplir le monde entier avec l'Évangile, qu'au moment même où les jugements sont en train de fondre sur eux, les hommes chérissent l'espoir que la terre soit remplie d'une bénédiction généralisée. Tout cela est la preuve la plus forte possible de la puissance de cette énergie d'erreur dont parle l'apôtre. Certes, Dieu travaille et tourne des hommes des ténèbres à la lumière. Il en était de même avant la destruction de Jérusalem. 3000 personnes ont été converties en un jour. Si aujourd'hui nous avions 3000 convertis en un jour, serait-ce une preuve que le millénium vient? Non, mais plutôt que le jugement est à la porte. C'était parce que le jugement venait que ceci est arrivé. C'était le Seigneur qui rassemblait ses saints avant le jugement et qui ajoutait à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Et si lui travaille maintenant d'une manière spéciale pour rassembler des âmes, ce n'est pas parce que l'Évangile doit remplir le monde, mais parce que le jugement vient sur l'Église professante. Pensée de J.N. Darby. Versets 13 à 17. La part actuelle et future du croyant. Après s'être occupé de l'erreur qui avait été une source d'agitation pour les croyants de Thessalonique, et après avoir prédit le jugement, ou la ruine, à venir de la chrétienté, l'apôtre, par voie de contraste, parle de la part actuelle et future des croyants. Dans la première partie de l'épître, il avait rendu grâce à Dieu pour ses saints, il les instruisait et priait pour eux. De nouveau, il a recours à l'action de grâce, à l'exhortation et à la prière. Versets 13 et 14. L'action de grâce. Citation de l'Écriture. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. Dans les premiers versets de l'Épître, l'apôtre remercie Dieu pour les saints en raison des grâces trouvées chez eux pour Dieu. Ici, il rend grâce à cause de tout ce que Dieu est pour eux. De manière très heureuse, il parle des croyants comme des frères aimés du Seigneur. Malgré tous les manquements et faiblesses parmi le peuple de Dieu, et quelles que soient les différences de niveau spirituel, il se complaît à les considérer comme liés ensemble en tant que frères. Cette fois, au cours de cette courte épître, l'apôtre s'adresse à ses saints comme à des frères. Chapitre 1, verset 3, chapitre 2, versets 1, 13 et 15, chapitre 3, versets 1, 6 et 13. De plus, bien que persécutés et mis à l'épreuve par le monde, ils sont aimés du Seigneur. Si nous nous souvenions que nous sommes aimés du Seigneur, ne devrions-nous pas être plus attentifs à la façon dont nous pensons, parlons et agissons les uns envers les autres? Le Seigneur peut-il être indifférent à la persécution ou aux insultes que subissent ceux qui sont aimés de lui, d'où que cela vienne? L'apôtre remercie ensuite Dieu pour tout ce que Dieu est pour les siens, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Tout d'abord, en regardant en arrière, dans l'éternité, il dit dès le commencement. Dieu nous a choisis pour le salut. Laissés à nous-mêmes, nous aurions dû être joints au monde dans le jugement dont l'apôtre a parlé, mais la grâce souveraine de Dieu nous a choisis pour le salut. Ce salut n'a pas été apporté par quelque œuvre que nous ayons faite, mais par l'œuvre de l'Esprit en nous, nous séparant du monde et nous conduisant à croire la vérité. Cette vérité, nous le savons, est l'Évangile concernant notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous puissions obtenir le salut. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10. L'apôtre met ainsi en contraste les croyants et les incroyants, du jugement desquels il a déjà parlé. Les incroyants, chez lesquels Satan a travaillé, n'ont pas reçu l'amour de la vérité et vont sous la condamnation. Les croyants, chez lesquels le Saint-Esprit a travaillé, croient la vérité et obtiennent le salut. Deuxièmement, si les croyants ont été choisis dans l'éternité passée, ils sont appelés dans le temps et l'appel les a atteints par l'évangile que Paul appelle notre évangile. Nous bornons souvent l'évangile à la prédication du pardon des péchés, mais l'évangile de Paul proclame non seulement le salut qui répond à nos besoins, mais il proclame également l'appel qui répond au besoin qui est dans le cœur de Dieu. Car si Dieu nous appelle, c'est dans le but de satisfaire les objectifs d'amour qui sont dans son propre cœur. L'appel de Dieu a un double caractère. Il nous appelle hors de ce monde et il nous appelle à un autre monde. Lorsque le Dieu de gloire apparut à Abraham, il lui fut dit « Sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. » Acte 7, verset 3. Nous aussi, nous sommes appelés à sortir de ce monde en vue d'une demeure céleste. Pour nous, le monde est le monde de la chrétienté corrompue, un mélange de judaïsme et de christianisme. L'appel pour nous est donc « sortons vers lui hors du camp ». Une fois sortis, nous trouvons immédiatement que nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 14. Si nous avons été choisis dans l'éternité et appelés dans le temps, c'est en vue d'obtenir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les âges à venir. Grâce merveilleuse. Si Dieu nous appelle, le but n'est rien moins que d'obtenir la gloire manifestée dans notre Seigneur Jésus-Christ comme homme. Nous allons être comme lui et avec lui. Redisons encore ceci. Combien nous parlerions et agirions différemment les uns envers les autres si nous considérions le peuple du Seigneur comme ceux qui sont choisis, appelés et qui sont en chemin vers la gloire. Verset 15. L'exhortation. Citation de l'Écriture. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par notre lettre. Fin de citation. Puisque nous sommes frères aimés du Seigneur, choisis et appelés à l'obtention de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre nous exhorte à demeurer fermes et à retenir. Encore une fois, remarquons-le, c'est comme frères que ces exhortations nous sont adressées. Ce n'est que dans la mesure où nous marchons ensemble, unis comme des frères, que nous serons capables de demeurer fermes et de retenir dans un sens collectif, quel qu'il soit. Si, comme les assemblées de Galatie, nous nous mordons et nous dévorons l'un l'autre, nous finirons par être consumés l'un par l'autre. Mais l'apôtre dit aux Galates, « Si, en contraste avec le fait de se mordre l'un l'autre, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors, en effet, nous ne serons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres, mais nous marcherons comme des frères portant les charges l'un de l'autre. » Galates 5, versets 15, 25, 26. Galates 6, versets 1 et 2. Marchant comme des frères, nous serons en mesure de demeurer fermes en présence des assauts de l'ennemi, que ce soit la persécution ou la tribulation. En outre, nous serons en mesure de retenir les instructions de l'apôtre. Pour les Thessaloniciens, ces instructions venaient soit par parole, soit par lettre. Pour nous, elles sont consignées dans les Épîtres. Tout l'effort de l'ennemi aujourd'hui est d'amener les saints à renoncer en présence de l'épreuve et à lâcher les vérités qui nous ont été enseignées. Versets 16 et 17. La prière. Citation de l'Écriture. Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Fin de citation. L'apôtre a placé devant nous le salut et l'appel de Dieu. Il nous a exhortés à demeurer fermes et à retenir, mais il réalise que si nous devons répondre à l'appel et tenir ferme en présence de toute la puissance de l'ennemi, ce ne sera pas possible par notre propre force. Il a donc recours à la prière. Il se tourne vers notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui va s'occuper de tout le mal et qui va annuler toute puissance opposée par l'apparition de sa venue. Qu'il est bon d'avoir accès à lui-même par la prière. En outre, il se tourne vers notre Dieu et Père. Celui qui nous aime, nous a choisis, nous a appelés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce. Il peut y avoir beaucoup de peine sur le chemin, mais il y a une consolation éternelle à la fin du voyage. Nous pouvons avoir à passer par des moments difficiles, mais nous avançons vers l'accomplissement de la bonne espérance. De faux docteurs peuvent chercher à angoisser et à détourner les saints, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous apporte la consolation. L'ennemi peut chercher à détourner les saints de leur service des bonnes œuvres et de bonnes paroles, mais en dépit de toutes les attaques de l'ennemi, que cela vienne de faux docteurs au sein de la profession chrétienne ou de la persécution de l'extérieur, Dieu peut rendre les saints capables de demeurer fermes, de retenir et de poursuivre en toute bonne œuvre et toute bonne parole.